Bonjour à tous. Donc, je suis Gabrielle Boulot, chercheuse en politique, en sciences politiques de l'eau. Et donc, je viens vous parler de la gouvernance de l'eau en vous disant que celle-ci a beaucoup évolué à partir de 1964. En fait, les lois de 1964 et de 1992 ont contribué à décentraliser une gestion qui était largement ministérielle auparavant. La loi de 64 instaure une gestion par grand territoire hydrique, donc c'est les bassins qu'on connaît, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse, Artois-Picardie, et elle crée des agences dans ces bassins qui vont prélever des redevances avec le principe pollueur-payeur ou préleveur-payeur, qui subventionne avec la recette de ces redevances des projets pour la gestion commune de l'eau. Et le niveau des redevances et les règles de subvention sont votées par leur comité de bassin, qui sont des instances qui regroupent 40% de représentants des collectivités, 40% de représentants des usagers de l'eau et seulement 20% de l'État. Donc on voit bien là un effort de décentralisation. La loi de 92 améliore la protection de la ressource en eau et des zones humides et poursuit cette planification décentralisée avec une nouvelle mission des comités de bassin pour cette planification, c'est-à-dire qu'ils vont édicter des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, des SDAGE, qui vont fixer des principes de partage de la ressource en eau et de sa préservation, de la préservation de sa qualité à moyen terme. Et ces SDAGE sont aujourd'hui révisés tous les 6 ans. L'intérêt de cette loi de 92, c'est d'avoir donné à ces SDAGE un statut qui fait que les autres actes des administrations, leurs autorisations, leur planification, doivent être rendus compatibles avec le SDAGE. Par exemple, le tribunal administratif de Lille a annulé en 2000 un schéma directeur de développement et d'urbanisme de l'agglomération de Lille qui prévoyait une autoroute sur un champ captant protégé par le SDAGE du bassin. Et donc là, on voit bien cette hiérarchie des normes. Alors, à côté de ces SDAGE qui ont comme périmètre ces grands bassins, il est prévu aussi par la loi de 92 des SAGE, c'est-à-dire des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau qui sont locaux et qui sont élaborés par des commissions locales de l'eau pour résoudre des enjeux plus locaux. Et la loi de 92 avait fixé comme composition de ces commissions 50% pour les collectivités locales, 25% pour le collège des usagers, des associations concernées, et 25% pour les représentants de l'État. Là, à nouveau, on voit un effort de décentralisation. Alors, depuis 2006, ce SAGE, alors il n'y en existe pas sur tout le territoire, hein, c'est les territoires à fort enjeu. Le SAGE comprend un règlement qui impose aux administrations des décisions qui lui soient aussi compatibles. Donc on voit que ça a donné plus de poids à la politique de l'eau, à cette gouvernance de l'eau. Malgré tout, les travaux menés notamment par Sylvain Baronne à INRAE montrent que cette décentralisation, elle est partielle parce que la politique énergétique, la politique agricole ne sont pas décidées au niveau des bassins ou des sous-bassins, mais impactent néanmoins fortement les ressources en eau, parce qu'il y a aussi des politiques budgétaires, judiciaires, qui impactent aussi les moyens de contrôle mis au service de ces décisions décentralisées. Donc en fait, pour appliquer les décisions des SAGE, pour faire appliquer les règles des SDAGE, eh bien en fait, on va beaucoup dépendre de ces politiques nationales. Et puis, une part importante des atteintes à la ressource, que ce soit sur les prélèvements qui sont pas toujours déclarés, les déplacements d'autorisation, les dégradations des milieux, eh bien, on observe que une grande part échappe au contrôle et encore plus à la sanction. Alors, ce qui a changé récemment, c'est une évolution de cette politique depuis 2000 avec l'adoption au niveau européen d'une directive européenne, la directive cadre européenne sur l'eau, qui a été transposée en France par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et qui demande qu'on atteigne un bon état des ressources en eau, et notamment en termes quantitatifs et qualitatifs. Et donc, en termes quantitatifs, ça veut dire qu'il ne faut pas prélever plus que ce que les ressources permettent par leur renouvellement naturel. Et ça s'est traduit par la notion de volume prélevable, d'abord sur les bases du passé, en fonction de l'hydrologie observée, et puis dans des études qu'on appelle hydrologie, milieu, usage, climat, ou HMUC, qui, du coup, vont tenir compte du futur avec l'évolution du changement climatique. Alors évidemment, quand on impose tout d'un coup des volumes prélevables qui sont plus petits que ce qui était utilisé auparavant, ça fait une transition difficile. Et donc il a été prévu des protocoles d'accord avec des délais pour l'atteinte de ce bon état et puis certaines dérogations pour les débits et des mesures financières d'accompagnement, notamment à la création de réserves. Seulement, très très rapidement, cela s'est traduit par un impact sur le budget des agences de l'eau. Alors que 85% des redevances de ces agences sont financées par la facture d'eau des particuliers. Et donc, c'était une subvention indirecte à des usages très consommateurs d'eau, notamment agricoles. Alors, cet impact sur le budget des agences a donné lieu à un moratoire en 2012 sur la création des nouvelles retenues, rapidement levé en 2013, à condition que, pour être financés, ces stockages d'eau soit intégrés dans des projets territoriaux, les fameux PTGE, projets territoriaux de gestion de l'eau. Vous voyez donc que c'est au niveau territorial, on a deux outils concertés aujourd'hui, l'un à l'échelle des bassins versants pilotés par une commission locale de l'eau où l'État est minoritaire, et l'autre autour d'un projet de retenue sous l'égide de l'administration, le PTGE, qui lui n'a pas de règles nationales dans son élaboration pour la représentativité des acteurs qui participent à sa concertation, et donc, d'une certaine façon, une question qui se pose d'articulation de ces deux types d'outils avec le débat qui est posé aujourd'hui dans le projet de loi d'urgence agricole sur la hiérarchie entre ces deux outils. Et puisque cette loi prévoit de réviser les SAGE pour qu'ils tiennent compte des PTGE, ce qui constitue une inversion de cette hiérarchie des normes, puisque jusqu'à présent les projets devaient être compatibles avec les SAGE. Et donc voilà un peu l'actualité sur cette gouvernance, et je rends la parole du coup à Samy.
Merci Gabriel. Moi je suis Samy Boirfa, donc je vous parle de Montpellier et je suis chef de département adjoint à département à ENRAE qui s'appelle AQUA, donc qui comme son nom l'indique s'intéresse aux questions d'eau et moi je m'intéresse plus particulièrement aux relations entre l'eau et l'agriculture et je vais vous donner quelques éléments plus spécifiques à l'eau et l'agriculture. Gabriel a évoqué tout à l'heure les prélèvements agricoles. Et donc, voilà, vous essayez de vous donner quelques éclairages sur la manière dont on voit cette situation. Pour démarrer, ben, je dirais que le débat public réduit souvent la question de l'eau agricole, donc l'eau qui sert à produire une part de notre alimentation, à savoir si l'agriculture consomme trop d'eau. Ou bien s'il faut construire des retenues ou restreindre les usages, et encore de savoir si les usages de l'eau en agriculture, autrement dit les questions notamment d'irrigation, sont compatibles avec les questions d'écologie. Et nous, on pense que la question de l'usage de l'eau en agriculture est plus large que ces questions et que la question principale est de garantir une production agricole en lien avec nos enjeux de souveraineté alimentaire, tout en réfléchissant à cette question dans la perspective du changement climatique et de la préservation durable des ressources en eau. Et que l'enjeu n'est pas uniquement de partager une eau plus rare, mais aussi de voir comment on transforme des systèmes agricoles pour qu'ils dépendent moins des prélèvements d'eau. Et notamment aux moments les plus critiques où cette ressource est la plus rare, c'est-à-dire l'été. Donc il faut d'abord savoir que l'agriculture française est majoritairement pluviale, hein, contrairement à beaucoup de pays du monde, et que l'irrigation concerne une part minoritaire des surfaces agricoles, moins de 7% de la surface agricole utile, et que dans ce contexte, on pense qu'il faut d'abord mieux valoriser l'eau de pluie et un des leviers principaux pour valoriser l'eau qui tombe, l'eau de pluie, ou autrement dit l'eau dite verte, c'est de jouer sur la question des sols, qui sont les premiers réservoirs, hein, puisqu'on va parler un petit peu, où est-ce qu'il faut stocker de l'eau, et c'est le premier réservoir qui stocke de l'eau. Et la question est de permettre à ces sols d'améliorer cette capacité à stocker de l'eau, donc à ce que cette eau s'infiltre et puisse être restituée au paysage cultivé. Et donc, l'un des enjeux principaux, c'est de restaurer ou de développer des pratiques agroécologiques qui sont nombreuses, hein, couvrir les sols, réduire le travail du sol, diversifier les rotations, développer l'agroforesterie, les haies, restaurer les haies, pour améliorer cette capacité à garder de l'eau et réduire la sensibilité de ces sols au ruissellement qui fait que l'eau coule directement et érode les sols, améliorer leur santé, notamment la richesse, la matière organique et leur structure. Et donc, autrement dit, avant de chercher à stocker de l'eau dans des retenues, il faut déjà stocker l'eau là où elle tombe. Par rapport à ça, l'irrigation, elle consiste à amener de l'eau aux cultures en surplus de l'eau de pluie. Alors, il nous semble qu'elle est légitime et indispensable dans de nombreuses situations. On peut du mal à faire pousser d'avoir des fruits sans irrigation, par exemple, dans certaines conditions. En tout cas, pour un certain nombre de productions à forte valeur ajoutée ou très sensibles au stress hydrique. Et aujourd'hui, enfin, historiquement, l'irrigation, c'est beaucoup le sud-est de la France, avec les légumes, les fruits, la viticulture aujourd'hui. Qui exige beaucoup d'eau, la viticulture méditerranéenne notamment. Elle s'est fortement, l'irrigation, développée dans le sud-ouest de la France. Alors là, il y a le maïs, dont vous avez tous entendu parler, les grandes cultures, le soja, et puis elle progresse beaucoup dans l'ouest de la France, là où le débat en matière de retenue d'eau est le plus vif aujourd'hui. Et alors, en termes d'eau, l'agriculture, elle représente en fait une part limitée des prélèvements d'eau annuels qui sont consacrés majoritairement à l'énergie et pour le refroidissement des centrales. Mais en revanche, l'eau qui est consommée par l'agriculture, elle repart vers l'atmosphère, donc elle sort du bassin versant. Elle va bien retomber quelque part, mais elle sort du bassin versant. Et donc, elle consomme une part importante et même particulièrement importante en période estivale, lorsque la ressource est plus rare. Et donc, dans ces régions ou dans certaines régions, l'irrigation peut représenter jusqu'à 90% des consommations estivales, avec toutes les tensions qui peuvent être générées entre agriculture et puis les autres usages, et puis les besoins de la nature. Et avec le changement climatique, tout ce qu'on a pu développer comme projection dite hydroclimatique, converge vers l'idée qu'il y aura moins d'eau dans les rivières l'été, ce qu'on appelle les débits d'étiage, et plus de besoin d'eau pour les cultures, parce qu'il fera plus chaud, et donc elles vont plus transpirer, et donc avoir plus d'eau. Donc on a une forme d'effet ciseau avec lesquels il faut vraiment réfléchir. Donc nous, rapidement, hein, à INRAE, on a montré qu'on avait déjà des marges d'amélioration, hein, en matière d'efficience de l'eau agricole, de l'irrigation, souvent de l'ordre de 30%, en jouant sur la technique, on va dire, l'amélioration des équipements d'irrigation, le goutte à goutte, voilà, tout ce qui est façon d'arroser. Et puis de piloter l'irrigation avec tous les capteurs, de meilleure précision météorologique, d'outils de la décision. Donc là-dessus, l'enjeu, c'est d'améliorer le fait d'apporter de l'eau en bonne quantité, au bon moment, au bon endroit, afin de maximiser chaque mètre cube tout en limitant les pertes, notamment par évaporation. Mais l'enjeu aujourd'hui ne se limite pas vraiment pas à l'efficience technique. Il nous faut repenser l'irrigation comme un outil d'accompagnement de systèmes plus sobres en eau et réussir à articuler ce que je disais tout à l'heure sur la transition agroécologique, donc les questions d'irrigation et d'agroécologie. Pour donner quelques exemples concrets, hein, l'irrigation, elle peut servir à diversifier les rotations, elle peut servir à contribuer à la santé des sols lorsqu'ils s'appauvrissent à cause des sécheresses, elle peut servir à développer l'agroécologie, l'agroforesterie, pardon. Donc, dans cette logique, on peut réfléchir à une irrigation qui devienne un véritable levier pour construire des systèmes agricoles qui seraient donc plus résilients à la question des pénuries d'eau et moins dépendants de l'eau d'irrigation à terme. Et donc pour résumer et pour terminer, hein, ça suppose à la fois de combiner par rapport à cette gestion de l'eau agricole, le développement de pratiques agroécologiques qui augmentent l'eau utile dans les sols, de poursuivre des efforts d'amélioration de l'efficacité de l'irrigation et de repenser une irrigation pour qu'elle soit un levier pour les transitions agroécologiques. Et donc de repenser dans cette logique la question des retenues d'eau lorsque c'est absolument nécessaire et de les réfléchir par rapport aux conditions environnementales dans lesquelles on les réfléchit, d'équité sociale, qui a accès à cette eau, et aussi de valorisation économique, qui paye pour ces retenues et comment finalement, qu'est-ce qu'on fait avec en matière notamment d'agriculture. Voilà, je vous remercie.